C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur.
Debout, debout.
On se déplace du côté de l'Ukraine à Kiev, dans la capitale, pour parler avec Katerina, à qui on a jasé il y a deux jours. Premièrement, Katerina, bon matin, bon midi pour toi, comment vas-tu?
Ça se passe difficile, même ici à Kiev maintenant, il fait calme, mais c'est un peu difficile de dormir parce que, voilà, premièrement, il y a des alarmes tout le temps, deux, trois par nuit. Et en plus, donc on écoute et on voit les nouvelles de tous les coins de notre pays. Les nouvelles sont terribles. Et en apprenant tout ça, c'est impossible de s'endormir. Voilà, que, par exemple, hier soir, on a appris les nouvelles de Mariupol, en ville au sud du pays.
Ouais.
C'est cauchemar, mais vous pouvez imaginer que les gens meurent de déshydratation. C'est comment ça, c'est... On est en 2022 et il y a des enfants qui meurent parce qu'ils n'ont rien à manger et à boire.
Oui.
Et comment dormir?
Comment ça se passe? Est-ce que les autorités vous tiennent au courant de la réalité de ce qui arrive ou c'est le silence de ce côté-là? Est-ce que vous avez des directives, mettons?
Oui, il y a des informations tout le temps. Donc, si vous allumez, par exemple, la radio chez nous ou la télé, donc il n'y a que des nouvelles, pas d'autre chose. Donc, mais en fait, nous avons très peu d'informations qui viennent des militaires. On nous dit que c'est logique parce qu'il ne faut pas informer tout le monde où se trouvent les militaires chez nous. Mais après, on ne comprend pas comment ça va évoluer. Parce que, oui, maintenant, il n'y a pas de bombardement. C'est chez moi, dans mon quartier, c'est super bien, mais combien ça va durer, on ne sait pas.
Ouais. Katerina, explique-nous ta situation, là. On te parle. Est-ce que tu es seule? Est-ce que tu es entourée? As-tu des enfants? Et comment tu vis ça, là, dans ta vie sociale?
Avant la guerre, j'étais une personne très, très active. Bon, je n'ai pas de famille, j'ai pas d'enfants. Et franchement, c'est le premier jour de la guerre. J'ai dit heureusement que je n'ai pas d'enfants. C'est la première fois que dans ma vie, parce que je ne sais pas comment vivre tout ça avec des enfants. J'étais une personne très active. Je travaillais, j'avais beaucoup de contacts. Je dansais, je dessinais, j'apprenais des langues. Et, bon, j'étais comme tout le monde. Et, j'avais beaucoup d'activités et tout est changé le 24, vraiment tout. Et,
Et là, non, tu es seule. Tu es seule.
Oh, dans mon appartement seul, mais je ne suis pas seule dans le sens que je ne suis pas abandonnée parce que tout le temps, dès le matin jusqu'au soir, je téléphone à mes amis qui sont à côté ou qui sont partis dans d'autres villes, qui sont à l'étranger. Bon, non, je ne suis pas seule dans le sens que je ne suis pas abandonnée.
Justement, Katerina, tu vis à Kiev. Tu dis que tu es bien entourée, que tu parles avec des gens. Je présume que durant la journée, vous parlez de ce qui se passe. Là, ça doit être difficile de parler de la danse ou du coloriage que tu faisais dans ta vie auparavant. Mais vous vous dites quoi? C'est quoi vos préoccupations?
Maintenant, la préoccupation la plus majeure de tous les Ukrainiens, c'est de prier pour la fermeture du ciel. Mais on est réaliste, on comprend que c'est pas possible pour nous. C'est un rêve irréalisable maintenant, parce que vraiment tout le monde a peur des bombardements qui viennent du ciel. C'est terrible.
J'ai une dernière petite question. C'est ma conjointe qui m'a demandé ça hier. Est-ce qu'on parle français en Ukraine? Pourquoi t'es prof de français en Ukraine? Ça nous apparaît hors norme un peu pour nous.
L'Ukraine, c'est un pays d'Europe. Donc ici, il y a beaucoup de compagnies internationales autant que je sache, il y a plus de 100 ans de compagnies françaises qui ont les bureaux ici, donc les Ukrainiens parlent des langues, ils parlent le russe. Moi, je parle le russe au quotidien. Je suis ukrainien, mais je parle le russe, pas de problème. Vraiment, pas de problème. Je parle le russe, je parle l'ukrainien, je parle le français, un tout petit peu anglais, je parle l'italien. Et donc ici, des gens parlent des langues.
Ça m'impressionne. Hey, on t'embrasse, Katerina. On te souhaite bonne journée autant que faire se peut.
Merci beaucoup.
Fais attention à toi, puis on se reparle très bientôt.
Merci beaucoup et bonne journée à vous.
Merci, bon courage. Bye, Katerina, qui est du côté de Kiev en Ukraine.
T'es comique? De retour après ceci.
96.9,
c'est quoi?
le podcast Debout les comiques.
Avec la pénurie de main-d'œuvre, on doit souvent engager des personnes qui sont pas nécessairement idéales pour le travail. Alors, retournons écouter cette radio communautaire qui a eu la très mauvaise idée d'engager un DJ de bar de danseuse.
Vous écoutez la radio de Sainte-Monique-sur-le-Lac, la radio Soleil FM.
Ici, DJ Love, en direct de la radio de Sainte-Monique-sur-le-Lac. Mais attention, si vous voulez lui passer sur le lac, la Monique, elle se réchauffe. Méchant DJ Love, méchant DJ Love. Oui, je dois m'excuser. Il semblerait qu'hier, pour la Journée internationale des droits des femmes, ce n'était pas une bonne idée de lui rendre hommage en mentionnant toutes les choses que j'aurais aimé lui faire pour lui donner du plaisir à Marie Curie.
Ben voyons donc!
Je m'en excuse, j'y voyais un beau témoignage. Je n'aurais pas dû dire la phrase, je l'aurais bien laissé muragnomer dessus. Elle mesure 13 pouces, porte vers la gauche et tout le monde la veut entre les mains. La statuette des Oliviers sera décernée la semaine prochaine. Entre-temps, ne manquez pas les shows d'humour à Sainte-Monique avec le duo Dominique et Martin. Deux hommes d'ange mûr expérimentés se tirent la pipe devant une grosse salle qui en demande.
Ah, ton rayon du matin, la radio Soleil FM. Ouais,
adepte de domination, il vous guide avec sa voix pour vous dire par où pénétrer dans l'île. À toi, Michel Harvey.
Ouais, ça s'installe, hein? On est rendu à côte Sainte-Catherine.
Oh, les belles côtes de Sainte-Catherine.
Il y avait accident dans la bretelle 640 ouest pour 40.
Oh oui, ça peut créer des accidents quand t'enlèves tes bretelles pour 40.
Bon, Samuel Champlain-Pelletier, les autres ponts de la Rive-Sud, ça va assez bien.
Ah, le pont. Ça me rappelle cette troupe d'anciennes gymnastes rencontrées dans le backstore du vieux Chac. On me fait signe que je n'ai pas le temps.
OK.
Le babillard.
Clinique de massothérapie Bernard Baudrillard. Faites disparaître votre tension entre ses gros doigts huileux.
Les aubaines de la circulaire.
Elle vient d'arriver avec sa belle robe. Elle vous donnera le goût de vous la faire à deux. Ouais. La bouteille de vin de Sainte-Monique sur le lac est disponible sur les tablettes de l'épicerie. Rond et long en bouche. À vous de voir si vous recrachez ou non. Vous êtes un jeune homme fringant qui ne se défile pas devant des bonnes balles. L'équipe de baseball locale, les Cougars de Sainte-Monique, recrutent. Oui, les Cougars profiteront de l'été pour transformer le jeune homme inexpérimenté en homme solide au bat.
La radio Soleil FM.
Et on s'en va. Et on s'en va en chanson. Avec cet ancien... Avec cet ancien chanteur de Star Academy qui nous raconte l'histoire d'un homme qui organise des orgies sadomasochistes dans son jardin.
Si tu ne peux pas mordre dans la vie qui t'emporte, parce que c'est la vie qui te mord chaque jour. Si tu ne peux répondre au coup qu'elle te porte, amène-toi chez nous, je serai dans ma cour. Je ne sais pas guérir, je ne sais pas me battre, mais peut-être qu'à quatre, nous trouverons le tout.
Oh non.
Le podcast Debout les comiques.
C'est quoi? Continuez de texter vos questions pour le doc sur le 96.9. Non, mais y en a-tu des malades?
Ben
ça,
message? Oui.
Y en a beaucoup quand même, des questions ce matin. Continuez. Le cancer colorectal, c'est une maladie qui atteint les plus vieux. Et on apprenait cette semaine qu'il y a une énorme augmentation de cas chez les plus jeunes. L'expert là-dedans, c'est le doc Michael Bensoussan, gastro-entérologue. Allô, Mick?
Absolument.
À quel
expertise totale.
Mais expertise totale, à quel âge on diagnostique ce cancer-là habituellement?
Ouais. Alors,
et l'augmentation toucherait quelle tranche d'âge par rapport à ça?
L'âge moyen de diagnostic d'un cancer du côlon, on est en train de parler d'un cancer qui est très 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 fréquent, le cancer du côlon, le cancer du rectum, cancer colorectal qu'on appelle ça, c'est la même chose, hein, le rectum étant la fin du côlon, c'est le même organe. L'âge moyen de diagnostic au Canada, c'est 63 ans. L'âge moyen de diagnostic dans le monde, c'est 65 ans. Ce cancer est le cancer le troisième le plus fréquent au Canada, d'accord? C'est vraiment un cancer extraordinairement fréquent, à tel point qu'on considère que passer un certain âge, c'est comme normal d'avoir un cancer du côlon.
Ah,
c'est presque
oui.
le devenir naturel d'un organisme qui vieillit trop longtemps d'avoir le cancer du côlon. Par exemple, quand on considère que dans sa famille, avoir un antécédent familial de cancer du côlon est un surrisque, c'est évident. Mmh. Si vous avez un antécédent familial au premier degré, c'est-à-dire papa, maman, frère et sœur, c'est ça le premier degré, on considère que c'est un surrisque si ce cancer survient chez la personne qui a eu le cancer avant 70 ans. Après 70 ans, on considère presque
c'est
que c'est une évolution naturelle de la nature.
Okay. Bon.
Ouais.
Maintenant,
et là, on observe plus tôt que ça encore.
Jeunes.
Voilà, sur la dernière décennie, mettons, depuis environ 2010, on constate dans les pays industrialisés et surtout au Canada, une augmentation, quasiment un doublement du pourcentage de gens chez qui on diagnostique le cancer du côlon qui ont plutôt 40-45 ans.
Mais voyons
ce qui est vraiment ce qui
mais
est vraiment
pourquoi nous,
très
vrai.
Oui, c'est-tu dans notre bouffe?
Alors, c'est sûr que cette observation-là ne se fait que dans les pays industrialisés. Par exemple, une étude de registre qui a été faite à Montréal prouve qu'au CHUM, la proportion de gens qui ont un cancer du côlon et le diagnostic est fait avant l'âge de 45 ans est passée de 10 à 18% à peu près en 10 ou 11 ans. Alors,
oui,
ça, on l'observe aux États-Unis, on l'observe dans les pays européens. Alors, pourquoi? Malheureusement, on le sait pas exactement encore. C'est encore
dans les bancs de neige.
Ben, c'est pas seulement. C'est aussi dans les pays industrialisés où il fait moins fret que c'est. Donc, ça va être probablement soit dans les polluants, soit dans notre mode de vie, et en premier lieu, ça va être la bouffe. On sait par exemple que dans les facteurs de risque de cancer du côlon, il y a la sédentarité, il y a les facteurs génétiques, et il y a une alimentation trop riche, trop grasse. Donc, est-ce que ces 10 dernières années, on a une augmentation dans nos pays de la sédentarité, de l'obésité et de l'alimentation trop riche, trop grasse? Évidemment que c'est le cas.
C'est
donc
ça.
Probablement que la réponse est quelque part par là.
Mais si, par exemple, je suis dans la quarantaine, quels symptômes je dois regarder chez moi pour savoir si je dois aller consulter?
Alors, je le redis, si vous avez un antécédent familial, ça c'est très significatif.
Numéro 1,
vous dites à votre médecin de famille, j'ai un antécédent familial significatif.
C'est le cas de Nick de Laval, c'est la messagerie texte. Son grand-père est décédé du cancer colorectal. Est-ce que lui doit les faire?
Alors voilà, Nick, si c'est ton grand-père, comme je le disais tantôt, c'est moins inquiétant que si c'était ton père.
Okay.
Mais ça dépend aussi de l'âge auquel ton grand-père a eu son diagnostic. Si c'est 70 ans et plus, tu n'as aucun sur risque par rapport à quelqu'un d'autre. Mais après, le test de dépistage, il est très facile. Vous savez, c'est le test où on va chercher du sang occulte dans les selles.
Ouais,
donc, c'est un prélèvement de selles.
Ça, c'est un symptôme.
Voilà. Ben, c'est pas un symptôme. Il n'y a pas de symptôme comme tel, mais c'est un examen qu'il faut demander à son médecin généraliste. Après, n'importe quel symptôme inhabituel qui pourrait vous alarmer doit faire l'objet d'une consultation médicale.
Comme quoi?
Saignement dans les selles.
Ensuite?
Changement des habitudes. On est plus constipé, plus diarrhée que d'habitude.
Okay.
Changement du calibre des selles. On faisait avant des beaux, jolis, beaux caca et puis d'un coup, ils deviennent tout fins, bizarres.
Comme
ça,
Billy.
Ça nécessite. Hein? Comme Billy. Tout fin comme Billy? Ou
tout.
Comme les cacas de Billy?
Bizarre.
Tout, ah, bizarre comme Billy. Oui, et il faut, dès qu'on a un doute, il faut pas hésiter à prendre rendez-vous chez son médecin traitant. On me dit que 82% des Québécois ont un médecin traitant. Soit, appelez-le, prenez rendez-vous et parlez-lui de ça. Ça prend juste un test dans les selles.
D'ailleurs, le cellulaire de Michael.
Non, non. C'est... On te garde avec nous, docteur. On va répondre aussi aux questions des auditeurs sur le 96.9 à 96.9.
Des comiques, de retour après ceci.
96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
Il y a quelques questions qui fusent sur la messagerie texte. Michael, on va compléter le cancer colorectal.
Ouais. Oui. C'est qu'il y a une question de la part de Justin, de Linda Savard et plusieurs autres de nos auditeurs oui. sur le 96.9 qui veulent savoir si j'ai le cancer du côlon, si j'ai la maladie de Crohn, est-ce que je suis plus à risque de développer le cancer du côlon?
Alors, il y a des maladies où on a plus de risques de développer un cancer du côlon, comme les maladies inflammatoires de l'intestin, si okay. elles touchent le côlon uniquement.
Colon irritable?
Alors non. La maladie de Crohn okay. et la colite ulcéreuse, qui sont des maladies inflammatoires de l'intestin, sont un sur-risque et c'est pour ça qu'on fait des coloscopies régulièrement aux gens. Le côlon irritable, qui touche 40 à 45% de nos auditeurs au moment ouais. où on se parle, donc 12, 13 millions de personnes, ça, c'est pas un facteur de risque. Okay. Le côlon irritable, c'est très fréquent, mais ça ne cancérise jamais.
Juste préciser pour Martin qui nous a écrit, son frère de 47 ans vient d'être diagnostiqué d'un cancer du côlon. Il a 44 ans, Martin. Oui. Il niaise pas avec ça, là.
Ah non, alors Martin, zéro niaisage. C'est un facteur de risque très important puisque c'est ton frère, donc un relatif au premier degré, et que le cancer est survenu très tôt. Il y a donc quelque chose de génétique dans la famille de Martin. Martin, tu viens de gagner une coloscopie en 2022.
Yeah! Yeah! Il y a une dame qui nous interroge ce matin. Qui t'interroge, Michael? J'ai accouché il y a plusieurs années. J'ai fait des hémorroïdes.
Oui.
Mon médecin m'a dit, hey, ça va partir tout seul. Mais oui. 10 ans plus tard, c'est encore là. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, je suis désolé pour le médecin qui vous a dit ça, chère auditrice, mais le devenir naturel des hémorroïdes est au mieux de rester à peu près calme et de rester là. Mais les hémorroïdes, spontanément, ça ne fait avec le temps que s'aggraver. Donc, c'est tout à fait normal que ce soit encore là. Il faut aller consulter. Ce qu'il faut regarder sur Google, c'est la science du péteux. Les médecins qui s'occupent du péteux, ça ouais. s'appelle la proctologie. Il faut donc une consultation en proctologie. En général, ce sont des chirurgiens digestifs ou des gastro-entérologue comme moi, et il va falloir poser des petits élastiques sur ces hémorroïdes. Après, tu seras tranquille pour 10 ans.
Donc, googlez, mais cliquez pas sur images.
Il y a Eric... en tout cas, pas en public.
Il y a Éric Labanville qui fait il y a l'acouphène. Est-ce qu'il y a des traitements pour ça? Et,
alors, oui, avoir on rappelle que l'acouphène, c'est donc un sifflement permanent ouais. qui va être là, qui va être handicapant et qui est dans l'oreille interne. En fonction de si cet acouphène est soit aigu, soit grave, ça peut être des signes de maladies neurologiques sous-jacentes, oh. notamment de sclérose en plaques ou moins grave de maladies de Ménière. Donc, l'acouphène nécessite une consultation spécialisée soit avec un ORL, soit avec un neurologue, parce qu'il va falloir l'explorer, savoir ce qui se passe en dessous, et le traitement peut être très différent. Première chose à faire en attendant cette consultation, se protéger des bruits forts. L'auditeur qui nous écrit ça, y a-t-il une pollution sonore au travail ouais. qui pourrait avoir une amélioration de son acouphène en mettant une protection
autour? Ou qui des fois, c'est de regarder, c'était peut-être ça tout le long.
Moi, ouais, c'est ça.
Alexandra Sabot, une fidèle, elle nous demande la différence entre un burn-out et la dépression. Michael, y a-t-il une différence?
Alors oui, ben, la dépression comme telle, c'est plutôt classé comme dans une psychose. C'est une maladie chronique, on appelle ça la maladie dépressive, la psychose maniaco-dépressive, c'est cette famille-là. Bon, le burn-out, c'est une sorte de prédisposition qui va être dans les mêmes familles, mais le burn-out va avoir une origine soit domestique, soit professionnel et va aboutir sur un terrain potentiellement dépressif à quelqu'un qui se retrouve avec sa personnalité déconstruite, plus aucune considération de soi, plus aucune estime de soi. Et du coup, symptomatiquement, ça va donner quelque chose qui ressemble à la dépression, c'est-à-dire que quelqu'un va être plus capable de faire quoi que ce soit dans sa vie.
Ouais. Et je termine avec la question de François Béot qui nous a écrit au 96.9. Il dit « Est-ce que tu aimes le pudding chômeur? »
Non, c'est, j'aime beaucoup ça, mais il y a beaucoup trop de calories là-dedans. Vous êtes fous. Sucre à la crème, pudding chômeur. Vous êtes donc dingue au Québec, parfois.
Sinon, Michael, un petit saviez-vous
ça
que...
Clair, un petit saviez-vous que, les auditeurs, saviez-vous que dans notre corps, nous sommes faits de cellules, les muscles, les neurones, les os, tout ça représente environ 100 milliards de cellules. Mais dans notre intestin, et notamment dans notre côlon, nous vivons en cohabitation avec notre microbiote, avec des bactéries qui nous colonisent et qui, elles, sont 1000 milliards dans notre intestin. Alors les amis, vous avez appris ce matin qu'il y a 10 fois plus de panous que de nous à l'intérieur de nous.
Wow. C'est bien fou. 12. Merci, Michael. On t'embrasse, mais on regarde quand même nos distances, pas que ton panneau tombe dans mon pamois.
C'est dégueulasse ce que tu dis.
C'est vraiment dégueulasse.
Ne cliquez pas sur l'image.
Non, non.
Le podcast Debout les comiques.
On fait le point ce matin sur la situation en Ukraine avec Loïc Tassé, expert en politique internationale. Bon matin, Loïc.
Bonjour.
Salut. Et Loïc, hier, il y a le président des États-Unis, Joe Biden, qui a interdit l'importation de pétrole russe. Donc, plus de pétrole russe aux États-Unis. Est-ce que Poutine pourrait y voir un acte de guerre?
Non, non, il n'y aura pas un acte de guerre là-dedans. C'est certain que ça lui fait un tout petit peu mal. Il n'y a pas beaucoup de pétrole russe qui va aux États-Unis. Mais ça fait partie de l'ensemble des sanctions.
C'est à peine mal, ça fait presque rien?
Ben non, c'est presque rien. Ah. Les États-Unis, en fait, sont autosuffisants en termes de gaz et de pétrole. Mmh. Et ils prennent du pétrole russe d'appoint pour faire fonctionner certaines raffineries ici et là. Mais ils n'ont pas besoin du tout du pétrole russe.
Loïc, dans la presse plus ce matin, il y a Patrick Lagacé qui écrit à propos de mamans de soldats russes qui sont en colère parce que leur fils sert littéralement de chair à canon. Là, on voit même une vidéo dans laquelle elle confronte un dirigeant. C'était pas ça le deal, partir en guerre. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Est-ce que les chances que le peuple russe, ces mères-là, se révoltent pourraient engranger quelque chose?
Ah oui. C'est le talon d'Achille de Vladimir Poutine. C'est l'opinion publique russe.
Oui.
L'opinion publique le sait pas. Les gens savent pas en général ce qui se passe en Ukraine. Ils pensent que l'armée russe va combattre une poignée de nazis qui est au gouvernement et que les Ukrainiens vont les accueillir à bras ouverts.
Parce qu'ils n'ont pas accès à l'information, il faut le dire. On leur bloque tout accès.
Non, ben ils ont un peu accès à travers Internet, mais très très peu.
Okay.
Et c'est sûr que l'information est bloquée en effet. Et en général, ils n'y croient pas. Il semble que quand il y a des Ukrainiens qui racontent aux Russes ce qui se passe, ils disent ben non, vous êtes victime de la propagande occidentale.
C'est ça.
C'est la même chose en Chine en ce moment. Les Chinois aussi ne croient pas ce qui se passe en Ukraine. Ils croient que c'est de la propagande. Non, c'est pas de la propagande, mais ça va finir par rentrer vraiment en Russie ce qui se passe.
Mais tu l'écris dans le journal parlant des Chinois. Tu dis que si on veut que le conflit se résolve, ça va passer par la Chine qui s'en mêle. Moi, j'avais l'impression que la Chine, plus elle se tient loin de ça, mieux c'est pour l'équilibre mondial.
Non, parce que les Chinois sont les seuls qui ont la confiance des Russes. Et les Chinois aussi sont les seuls qui peuvent un peu aider les Russes à contourner l'embargo. Si les Américains et les Chinois se mettent ensemble et disent « ça suffit », ça va faire très mal à la Russie. Et en plus de ça, si jamais ces deux-là disent « on va expliquer au peuple russe ce qui se passe », puis ils vont vraiment voir ce que l'armée russe fait en Ukraine et elle commet des crimes de guerre, ça va faire extrêmement mal à Vladimir Poutine.
Et on va suivre ça parce que c'est clair qu'il y a des jeux de diplomatie qui se déroulent. C'est sans arrêt
depuis
deux
semaines. Que la paix arrive par la Chine, c'est quand même surprenant.
C'est quand même particulier.
Mais Xi Jinping a dit qu'il était prêt à servir d'intermédiaire. Il a dit ça ce matin.
Ah oui, okay. Ben, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup, Loïc, de nous tenir au courant de ce qui se passe. Et on se reparle très bientôt, mon ami.
Ça marche, au revoir.
Loïc Tassé, expert en politique internationale, prof de politique internationale, puis il écrit sur la politique internationale.
Il y a une petite fixation, on dirait.
Pour plus de tes comiques, écoute 96.9 C'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'est quoi.com.
C'est 23.